CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Veux-tu être une personne stable ?» Nous allons parler de la stabilité aujourd'hui. Donc, nous allons être très stables dans notre niveau sonore aujourd'hui pour faire plaisir à notre ingénieur du son, d'accord?
Oui.
Absolument.
Il faut commencer tout de suite alors. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être stable dans notre vie. C'est même une nécessité en fait, parce qu'il y a des personnes qui font les montagnes russes dans leur vie, mais ce sont des gens malheureusement qui n'avancent pas très vite ou qui parfois même font des marches arrière. Vous savez, les montagnes russes, il y a des loopings aussi. Mm-hmm. Vous voyez, comme c'est imagé un petit peu, c'est pas mal. Hein, et on va parler de constance et de stabilité. Amen. Et Frank, tu vas nous faire une belle rubrique flashback sur le frère FF.
Bosworth.
Yes.
Oui, c'est un homme qui a... En fait, qui a eu justement une stabilité très grande dans sa vie et qui a été un mentor pour beaucoup des hommes de Dieu des années 40, 50 et 60 par la suite, parce que lui, il est né dans les années 1800, avant qu'aucun de nous ne soit sur cette terre encore.
Effectivement. Sauf si vous me cachez des choses.
Non, ça va être très puissant. Et puis, il est l'écrivain d'un des livres sur la guérison qui est ultra répandu et connu aujourd'hui encore même. C'est vraiment super comme histoire. C'est un homme vraiment quelque chose.
C'est merveilleux. Moi, j'ai trop hâte à cette rubrique parce que je ne connais pas du tout. Donc, on va apprendre plein de choses. Mm-hmm. Mais avant ça, comme je l'ai dit, nous allons parler de stabilité. On commence avec la pensée du jour.
Et oui, aujourd'hui on parle de la stabilité et ta stabilité en fait elle reflète ta maturité, c'est complètement lié. Nous avons un Dieu qui est omniscient, c'est pourquoi il n'est jamais pris au dépourvu, il n'est jamais en retard, il ne change pas d'avis lorsqu'il y a un vent contraire, ni parce qu'il est de mauvaise humeur, ni dans une situation de manque ou je ne sais quelle autre circonstance, il est stable et d'ailleurs il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. J'avais oublié une partie. Lorsque Jésus est dans la barque, en fait, il n'est pas inquiété par la tempête qui menace de naufrage ou de mort. Il se rend exactement là où il a prévu d'aller, là où le Père lui a dit d'aller. Donc, il est stable. Il change pas s'il y a un vent contraire. Et celui chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, nous dit Jacques 1,17, veut que nous soyons nous-mêmes stables dans notre vie. Et il dit d'ailleurs, je lui bâtirai une maison stable. Donc aujourd'hui, on doit vraiment choisir. C'est une décision. Et c'est pas une décision qui se prend uniquement à un moment. Ça doit se poursuivre, en fait. La stabilité, elle est éprouvée dans le temps. Donc Dieu veut nous faire marcher dans la stabilité, car elle est la démonstration que nous sommes dans l'obéissance de la foi et que nous connaissons sa volonté parfaite pour notre vie. La stabilité, c'est la maturité. C'est l'assurance que Dieu et les hommes peuvent compter sur nous, et ça, c'est vraiment important. Nous n'allons pas nous rétracter en chemin, nous n'allons pas faire demi-tour, être lâches, nous n'allons pas suivre toutes sortes de nouvelles idées qui nous traversent la tête ou en disant « Dieu m'a parlé dans telle et telle situation, Dieu m'a parlé, et chaque semaine, Dieu vous parle et vous prenez des situations, même des fois qui sont des décisions qui sont même parfois opposées. Donc la stabilité, elle cohabite avec la foi. Vous savez ce que vous croyez et vous n'êtes pas comme les personnes qui sont citées dans Jacques 1,8, semblables au flot de la mer, agités par le vent et poussés de côté et d'autre, un homme irrésolu ou une femme irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Donc il y a même aussi dans la parole quelqu'un qui est agité par et qui suit toutes sortes de doctrines, parce qu'un jour il croit ceci, un jour il n'y croit plus parce qu'il est instable. La stabilité cohabite avec l'amour. Tout comme l'amour, la stabilité, c'est la patience. La stabilité espère, elle sait prendre le temps d'espérer. Et la stabilité, c'est aussi supporter les choses qui sont difficiles dans un moment parce qu'on se dit, je ne vais pas prendre de décision maintenant parce que je suis challengé dans telle ou telle situation, mais je vais rester stable dans mes émotions et dans ce que je crois. La stabilité cohabite avec la loyauté. Géasi était instable dans sa marche avec Dieu et donc déloyal envers son autorité qui était Élisée. La stabilité cohabite avec l'intégrité. La Bible dit dans Genèse 6,9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et regardez ce qui est écrit. Noé marchait avec Dieu. Non pas, il s'est pas arrêté un moment dans le lieu secret, Seigneur, je t'aime, etc. Lui, il marchait toute sa vie avec Dieu. Mm-hmm. C'est pourquoi on peut dire qu'il était stable et intègre. Et nous pouvons aussi discerner quelques sources de l'instabilité. La rébellion, ça a été le cas un peu de Géasi, le cupide. Lorsqu'une personne ne veut pas se soumettre à une autorité que Dieu a placée pour son édification, on rappelle que les 5 ministères sont donnés pour l'édification du corps. La lassitude, lorsqu'une personne se lasse rapidement de son travail, de son logement, de son église, de sa ville, de son pays, etc. Et donc, elle a la bougeotte. La légèreté, lorsqu'une personne prend toutes sortes de décisions sans consulter Dieu, comme s'il était le propre chef de sa vie, ou même de faire des alliances. La Bible dit, malheur à vous qui faites des alliances sans me consulter. La peur aussi est une forme d'instabilité. Lorsqu'une personne a peur de s'engager, peur d'obéir à l'appel de Dieu, c'est parce qu'elle est instable dans ses émotions, dans sa vie spirituelle, etc. Donc, on pourrait citer d'autres sources d'instabilité, mais on voit que tout ce que j'ai dit, c'était de l'ordre spirituel. Ce sont souvent des esprits de rébellion, esprits de lassitude, de légèreté, d'esprit de peur, etc., qui tournent autour de la personne instable. Nous voulons donc choisir la stabilité, je fais vite, car lorsque nous sommes stables, nous sommes dignes de confiance. Lorsque nous sommes dignes de confiance, nous sommes aptes au service de Dieu. Alors soyons matures, soyons stables.
Amen. 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 Petit marathon final. Hein.
Ouais,
merci Gwen, ta pensée était très très complète.
Ouais.
T'as vraiment bien détaillé ce qu'est la stabilité et donc ce qu'est l'instabilité aussi. On voit que ça se manifeste de différentes façons, mm-hmm. en fonction des personnes, en fonction de ce qui est fait, des actes posés. Mais on voit qu'à chaque fois, ça nous disqualifie, en fait. Malheureusement, une personne instable, c'est une personne en qui on ne peut pas réellement avoir confiance. Mm-hmm. On ne peut pas lui confier des choses importantes parce qu'en fait, on n'a aucune certitude que les tâches vont être menées à bien mm-hmm. et qu'elles vont aboutir à quelque chose, à ce qu'on lui avait demandé de faire, en fait. Mm-hmm. Et on sait que ce sont des personnes qui, malheureusement, peuvent se lever un jour de très bonne humeur, pleine d'ambition, et de désir, et puis le lendemain complètement défaite et découragée. Et la stabilité, c'est quelque chose qui se cultive, en fait. Comme tu l'as dit, c'est pas juste une histoire d'un jour, c'est quelque chose qui doit se cultiver dans la vie et qui doit se travailler aussi. Mmh. On ne naît pas stable ou instable, c'est certain, on a des personnalités différentes qui vont définir un petit peu comment on fonctionne, mais c'est quelque chose qu'on peut, sur lequel on a un contrôle. On n'est pas soumis à une instabilité. Voilà, je suis née comme ça, je suis quelqu'un d'instable, bah, prenez-moi comme je suis et tant pis. On peut vraiment évoluer dans ce domaine-là. Et la Bible nous parle de stabilité aussi. Paul en a parlé dans Colossiens 2 au verset 5, c'est notre verset du jour. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Mmh. Et là, c'est Paul qui s'adresse aux Colossiens, mais le Seigneur peut nous dire la même chose. Peut-être Absolument. Que vous ne me voyez pas, je ne suis pas là physiquement, vous ne me voyez pas, mais en esprit, je suis là et j'aime voir l'ordre qui règne parmi vous, j'aime voir votre stabilité dans votre foi. Vous êtes des gens stables, vous êtes des gens de confiance et on peut aller de l'avant. Parce que Gwen, il y a un petit peu le phénomène des étoiles filantes, comme on aime les appeler. Une étoile filante, c'est très beau, mais ça s'éteint très vite.
Absolument, et on ne veut pas être des étoiles filantes. On voit que dans la Bible, on parle souvent d'un parcours, on parle d'un chemin, on parle même d'une ligne d'arrivée, on parle d'une course. Mm-hmm. Et Paul parle d'achever la course, mm-hmm. de remporter la couronne, etc. Et ce n'est pas juste une image. Et on a dit deux choses qui étaient très importantes dès le début de cette émission. C'est que Frank a commencé à parler de cette personne dont on va parler aujourd'hui. Oui. Et qu'il a eu un parcours de stabilité.
Ouais.
Et tu as dit une autre chose qui était très importante, c'est tu parlais des montagnes russes, qui était une très belle image d'ailleurs.
Merci.
Et souvent, les gens qui ont quelque chose qui vient les toucher et puis ils ont envie de servir, ils sont en feu, etc. Et puis là, ils sont déçus parce que des fois, on leur confie pas des choses. Mais soyez pas déçus, c'est très bien d'avoir un feu, mais éprouvez-vous vous-même votre... Je sais pas si ça se dit, mais bon, mm-hmm. vous comprendrez. Il faut éprouver ce feu, en fait. Mm-hmm. Il faut lui laisser prendre le temps dans le service et dans la longévité et aussi dans la constance et la stabilité.
Amen.
Parce que ce qu'on veut, c'est avoir un bon parcours. Et je me rappelle d'un homme de Dieu qui faisait hommage à Billy Graham en disant dans tout son service, il a eu un parcours. Non, je crois qu'on en parlait ici dans Bonjour chez vous. Un parcours sans éclaboussure, il s'est écarté ni à droite ni à gauche. Il a eu un super parcours. On peut pas dire un parcours parfait parce que la perfection, c'est juste au ciel, mais il a eu un super parcours et on veut avoir un parcours comme ça. On a vu tellement de personnes monter en flèche et puis se sentir poussées, en train de suivre le don, etc., puis tomber d'un seul coup. On veut pas. On veut être stable et La Bible nous parle d'une maison qui est bâtie sur le roc. Pour bâtir sur le roc, il faut prendre le temps de poser les fondations. Et on ne veut pas être cette étoile filante qui monte et après on n'en entend plus parler.
Amen.
On veut durer dans le temps, on veut achever la course. La Bible dit dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ah, je dis n'importe quoi aujourd'hui.
Mais non.
J'ai gardé la foi, hallelujah. Donc c'est ça, on veut finir la course en beauté, on veut être stable tout du long. Et puis on veut se donner aussi le temps d'éprouver sa course, de se dire, il y a des choses qui sont peut-être difficiles sur mon parcours ou des fois j'ai envie d'avancer à une telle et telle rapidité, mais on marche au temps de Dieu. Les saisons de Dieu, ça existe aussi pour tout le monde et c'est ce qui va nous permettre d'être stable. Abraham a eu un long parcours. Dans son parcours, il y a eu des saisons différentes et il a fallu qu'il soit éprouvé dans tous ses parcours pour monter à un niveau supérieur.
Amen.
Amen. Mais Gunn a dit une très belle pensée. Il a parlé de dans l'épître à l'épître de Jacques.
Ah,
il
tu parles de l'épître.
L'épître qui parle d'être inconstant en fait. Mais en fait, je crois que dans cette société actuelle dans laquelle on vit, on ne célèbre pas la stabilité. Tu vois, t'as un cellulaire, t'as un portable, au bout de 2 ans, de 6 mois, il y en a un nouveau qui sort. Mm-hmm. Et on veut toujours le changement, en fait. On veut toujours quelque chose qui est nouveau. Et je crois que cette mentalité, des fois, elle rentre en nous où est-ce qu'on a toujours besoin que ce soit nouveau. On a toujours besoin de l'excitation du début. Mais comme l'apôtre Jacques l'a dit, celui qui est inconstant, ça veut dire comment tu vas contrer ça, c'est en étant fondé dans la parole. Et je crois qu'il y a des personnes qui doivent aller chercher dans la parole cette stabilité-là. Mmh. Ne pas juste se dire, si je suis plus excitée ou j'ai plus les papillons, ça veut dire que je dois changer de travail ou changer d'église ou changer de relation. Mais ça prend d'être fondé. Il a parlé de la stabilité qui est en l'amour. Et je pense spécialement à des hommes de dire, OK, en tant que mari, peut-être qu'en ce moment, tu ne sens pas les papillons ou l'effervescence envers ton épouse, mais ce n'est pas la faute de ton épouse, ce n'est pas elle le problème. C'est toi qui dois te stabiliser dans ton amour. Tu as pris un engagement devant Dieu, tu as pris un engagement pour cette femme-là dans les bons et les mauvais jours. Et le jour où ça va moins bien, ce n'est pas ce moment-là que tu vas mettre encore plus d'instabilité dans ton couple. Vraiment de dire, je suis stable, j'ai choisi cette femme, je marche dans l'amour et je suis stable dans mes relations parce que ça a des conséquences, en fait.
Oui.
Et par rapport à ce que tu dis aussi, Nadine, quand tu parles, j'ai en tête le verset de Apocalypse qui dit, c'est à l'église d'Éphèse, je ne sais pas ce que j'ai contre toi, c'est que tu as délaissé ton premier amour, en fait. Et en fait, c'est parce que Dieu n'a pas trouvé cette stabilité-là, donc au niveau de l'amour que cette église avait, au niveau de son zèle exactement, parce que c'est une église qui faisait même des bonnes œuvres, mais à ce niveau-là, il a manqué quelque chose. Et quand Nadine parle, en fait, je réalise que c'est parce que on perd souvent la première chose qui nous a animés, et maintenant on se retrouve dans les montagnes russes, en fait, comme tu disais tout à l'heure, Evelyne, c'est que là, on était quelque part. Au lieu soit de grandir, soit de demeurer stable, mais on a commencé à descendre et on a manqué de cette stabilité-là, en fait. Et en fait, mon interpellation ici, c'est pour dire aux gens qui sentent qu'ils sont ballottés, comme on a vu dans la pensée du jour, que la stabilité vient vraiment de Dieu. Parce que Gwen l'a dit, en Dieu, il n'a aucune ombre de variation.
Amen.
Il n'y a aucun changement. Je ne peux pas, même avec toute ma bonne volonté, espérer être stable si je ne suis pas fondée sur le roc, en fait.
Oui.
Si je ne suis pas fondée sur un pilier qui est stable, je ne pourrais pas être stable. Donc, c'est vraiment encourager les personnes en disant, mais pour être une personne stable, il faut se fonder sur le roc, sur Dieu. C'est seulement Dieu qui a la capacité, en fait, de nous amener plus loin parce que de façon naturelle, tout ce qui est naturel va se décline, en fait. On grandit et puis voilà, les choses déclinent. Mais Dieu n'a aucune ombre de variation.
Amen.
Et c'est juste qu'on se repose sur lui que là, on peut maintenir cette stabilité, en fait, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit à tous les niveaux, on peut maintenir cette flamme, ce premier amour dont je parlais tout à l'heure. Ça peut vraiment rester au bon niveau si on est enraciné en Dieu.
Moi, j'aimerais même dire que la personne qui est instable, en fait, la personne qui souffre là-dedans, c'est elle-même aussi.
Mais oui,
des fois, on pense que c'est les autres. Quand tu changes d'emploi tout le temps, quand tu changes d'église tout le temps, quand tu n'arrives pas à maintenir des relations, des amitiés autour de toi, à la fin de la journée, c'est toi qui souffres de cela. Et c'est vraiment important de dire, parce qu'on, des fois, on a l'impression que c'est les autres qui doivent nous nourrir, nous divertir. Mm-hmm. Et donc, on a l'impression que c'est les autres qui doivent nous s'occuper de nous, en fait, à ce niveau-là. Mais au contraire, c'est pas ça. C'est nous qui devons être plus fermes. C'est nous qui devons être plus stables. C'est nous qui devons être plus constants dans nos émotions, dans nos convictions, dans nos projets. Et c'est vraiment si on se trouve dans ce qu'on est dans un niveau où est-ce que on tâtonne, on commence un projet, au bout de 2 ans, on se fatigue, on va à autre chose. Peut-être c'est de dire, OK, je reviens vers Dieu. Et comme Dieu dit dans le psaume 84, verset 5, qui met en nous des chemins tout tracés, ben, Seigneur, tu crées des chemins. Tu me montres c'est quoi le couloir dans lequel que tu veux que j'opère. Si c'est la louange, je suis dans la louange. Si c'est le travail séculier, donc tu me montres exactement où, et ça me permet de grandir et de peaufiner ce que je fais. Parce qu'on perd le temps quand tu fais un petit peu, tu laisses, tu fais un petit peu, tu laisses. Mais finalement, à la fin, tu es homme à tout faire, mais homme à rien faire, en fait.
Mais c'est ça. C'est qu'en fait, on se perd. Quand on est quelqu'un d'instable, on s'égare dans toutes sortes de choses. Mmh. Et puis certains se disent, oui, mais je veux bien être stable, mais je n'y arrive pas. Je sais que je dois être plus stable. Mon pasteur me l'a déjà dit. On peut pas te confier autre chose dans l'église parce que t'es trop instable, etc. Ma femme me l'a dit. Mes collègues au travail me l'ont dit. Même mon patron veut pas me donner une promotion parce que je suis instable, mais je peux rien y faire. Je vais vous encourager à prier. Demandez à Dieu de vous aider à être une personne stable, d'amener la stabilité dans votre vie, et apprenez à développer le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous permet vraiment justement d'être stable, de plus être ballotté par différentes pensées, par différents courants d'émotions, etc. On vit telle ou telle chose, je suis fatiguée aujourd'hui, donc je me sens plus comme ça, etc. On apprend à développer la maîtrise de soi et on se stabilise dans sa vie. Et on parle d'homme de Dieu stable. Et moi, je vais en profiter pour honorer l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui est pour moi vraiment un modèle de stabilité dans son ministère. Ouais. Lui n'a jamais eu d'éclaboussure non plus. Il a été stable. Il avait une vision, c'était l'Afrique doit être sauvée. Le Seigneur lui a donné cet appel. Il était un tout petit garçon à l'époque. Il a gardé ça toute sa vie et il a eu des autres opportunités dans sa vie. On a essayé de le dérouter de sa vision, mais c'était toujours l'Afrique doit être sauvée. Et il a tout mis en œuvre toute sa vie jusqu'à aujourd'hui pour que cette mission soit menée à bien. Et il a été capable même de transférer le flambeau à Daniel Kolanda. On sait qu'il a repris le ministère Céphane. Et ça, c'est des exemples de ministère. C'est possible d'être stable et de porter du fruit. Vraiment, on continue toute sa vie, pas justement de monter et de descendre, d'être vraiment stable. Et puis, on va découvrir maintenant la vie de cet homme, F.S. Bosworth.
Ah, c'est pas ça son nom, mais...
F.S. Bosworth.
C'est ça, ouais.
C'est bien, ça va, ça. Pas mal, ça?
Oui.
Ok, je ne le dirai plus du tout dans cette émission. On va enchaîner avec la rubrique flashback. Vas-y Frank, je te laisse la parole.
Eh oui, donc F.F. Bosworth, son nom F.F., il était connu comme ça, mais son nom vraiment, si on peut le dire ici, c'était Fred Francis Bosworth.
C'est bien,
c'était plus facile. Si tu veux parler de lui, tu peux dire Fred. Mais bon, FF est né le 17 janvier 1877. Et donc, ça fait un bout qu'il n'est plus avec nous ici sur cette terre. Mais il a eu un impact extraordinaire vraiment, justement, au travers de sa vie. Parce que c'est vrai que dans les hommes de Dieu qui ont impacté, qui ont apporté le réveil, là, on parle de la fin des années 1800 jusque dans les années 1950-60. Tu as eu toutes sortes d'hommes. Quand tu les étudies, j'aime beaucoup regarder un peu à leur vie et tout ça. Et quand tu vois vraiment, il y en avait qui avaient des caractères qui étaient difficiles, des personnes qui... Et Dieu les utilisait quand même.
Mais
tu as vu que leur fin n'a pas été comme la fin de cet homme. Et ça, c'est la fin, je vous le dis, la fin... c'est quelque chose. J'avais jamais vu ça.
Des chars de feu.
Jamais. Non, mais c'est quelque chose quand même. tu verras, Gwen.
Les chars de feu sont réservés à elle.
Donc, juste, je vais aller un peu plus vite sur le début de sa vie parce que je veux vraiment rentrer dans du gros costaud, du concret de son ministère. Mais à 9 ans, son papa, lui, avait été dans la guerre civile des années 1860 aux États-Unis. Et puis, son papa l'a apporté, lorsqu'il avait 9 ans, un peu une cérémonie un peu sur la guerre civile. Et puis, il a vu des fanfares jouer. Et il a fait « Wow, c'est merveilleux, des fanfares ». Il n'avait jamais vu des instruments comme ça. Il grandissait sur une ferme, rien de trop extraordinaire. Il a vu ceux qui jouaient du cornet, justement. C'est comme une trompette, si on veut, dans les fanfares. Et puis, il s'est dit, mais moi, je veux avoir une trompette comme ça. Il voulait avoir sa trompette à 9 ans. Il voulait tout faire pour l'avoir, en fait. Et puis, il était quelqu'un de très débrouillard. Et on va le voir un petit peu plus loin aussi. Il était un super de bon vendeur, en fait. En tout cas, il avait de la suite dans les idées, comme on dit. Puis, il savait comment s'y prendre. Et son oncle lui a donné le plus laid des cochons qu'il avait.
Okay.
Et puis, il a donné ça. Il s'est dit, mais moi, avec ça, je vais engraisser le cochon et je vais le vendre. Mmh. Et puis, avec l'argent qu'il s'est fait, il a acheté une vache. Et avec cette vache, il a eu un veau. Et avec la vache et le veau, il l'a vendu pour pouvoir s'acheter sa trompette.
Wow.
Tu vois ce que je veux dire? Il était jeune quand même.
Et donc, visionnaire aussi.
Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Et il était intelligent. Il n'a pas fait de grandes études, entre guillemets, comme d'autres auraient pu le faire, mais il était très intelligent aussi. Et donc, en achetant son instrument, il a acheté le livre le plus complexe aussi qu'il pouvait trouver sur l'instrument pour pouvoir apprendre à jouer lui-même. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est lorsqu'il travaillait pour son père dans un petit magasin qu'il avait. Quand il avait des temps morts, il faisait juste jouer. Il est devenu super bon, en fait, qu'il est devenu un des trompettistes de la fanfare officielle de l'État dans lequel il habitait.
Ah oui.
Il est devenu super bon. Et puis là, il était encore jeune. Hein. Il n'était pas rendu à 20 ans. Là. Il était encore tout jeune, mais il était un super de bon joueur comme ça. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est à l'âge de 16 ans, dans sa vie, il s'est dit, mais moi, j'en ai assez, j'ai envie de bouger, je veux pas la vie tranquille comme ça, je veux que ça bouge dans ma vie. Donc là, il s'en va, il part sur la route, et puis il devient un vendeur de toutes sortes de choses. Il vendait n'importe quoi, peu importe ce qu'il travaillait pour un monsieur qui lui disait, ben là, tu vas vendre ça cette semaine, tu vas aller vendre ceci ou cela. Il voyageait d'un état à l'autre aux États-Unis, il embarquait sur des trains, il voyageait, il allait voir des gens, il frappait aux portes, il vendait ses trucs et tout ça, mais il était excellent. Et en fait, il faisait ça aussi avec son frère. Et puis, un jour, il est arrivé dans la ville de Omaha, dans le Nebraska, l'État du Nebraska aux États-Unis. Et puis, il est allé voir une dame qui achetait souvent de ses choses. Donc, il est arrivé là. Et puis, la dame lui dit, elle était plus vieille que lui, elle lui dit, hey, « Est-ce que t'aimerais pas ça, venir, Fred, avec moi? Il y a des réunions de réveil dans mon église qui se passent, une église méthodiste qui était réveillée à l'époque. » Et puis, il dit, « Bah, OK, je vais y aller. » Donc, il y va, et les deux premiers soirs, qui est là, il est juste gentil, il est aux réunions, et là, il a 16 ans, et puis il écoute le message. Mais le troisième soir, il entend le message, mais il le voit différemment. Et là, il y a vraiment la révélation de Dieu qui se passe dans sa vie. Le voile est enlevé, il voit Jésus comme sur la croix, il saisit, en fait.
Wow.
Il saisit ce qui s'est passé pour lui, pour le pardon de ses péchés, et là, il sent qu'il doit y aller. Et puis lui, ses parents étaient des chrétiens, pas forcément super zélés, mais c'était des gens qui croyaient en Dieu. Et puis lui, en vieillissant, c'était pas forcément ce à quoi qu'il s'accrochait, il croyait, mais là, ce soir-là, il sent que, ah là, je dois donner ma vie à Dieu. Et c'est le troisième soir dans ses réunions de réveil. Et puis la dame voit qu'il est à côté, là, il est mal. Tu sais, quand t'es mal, moi, j'ai souvent été comme ça, t'es dans le fond de l'église et puis t'es mal. Puis il y a l'appel qui se fait faire quand j'étais jeune, je me rappelle, tu luttes. Et puis la dame a vu, elle a dit, mais Fred, pourquoi est-ce que tu t'avances pas? Et là, il, tout tremblant, il commençait à stresser. Mais... Et là, il va, il s'avance.
Oh.
Et quand il arrive à l'hôtel, en avant de l'église, et puis là, il se met à genoux. Et dans son cœur, il dit, oui, Dieu, je t'accepte. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un éclat de rire extraordinaire. Il n'arrête pas de rire, mais c'est le salut et la joie du Saint-Esprit qui s'emparait de lui. Il riait. Les gens, ils ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais c'est que... Et lui, il était mal parce qu'il n'est pas capable d'arrêter. Il riait parce qu'il y avait la joie du salut qui était là. C'était extraordinaire. Et là, il a réussi un peu à se calmer, à se ressaisir. Il retourne voir la dame et tout ça. Et là, sa vie continue. Mais pendant les deux prochaines années, il continue à vendre ses trucs. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en vendant, ben, il s'y prenait de toutes les façons possibles. Donc, s'il y avait des trucs malhonnêtes, des affaires et tout ça, mais il était plus bien dans ça. Il pouvait plus vivre comme ça. Il pouvait plus continuer. En fait, un jour, il s'est dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il savait qu'il y avait quelque chose sur sa vie. Dieu l'appelait à quelque chose. Puis là, il luttait. Il y avait vraiment cette lutte qui était là à l'intérieur de lui. Et puis, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie? Et là, il continuait de vendre ses trucs. Et puis, physiquement, il s'est passé quelque chose. Parce que, là, on retourne en arrière, lorsqu'il avait à peu près 11 ou 12 ans, il avait été, là, on parle des années 1800 aux États-Unis, hein, c'était pas développé du tout, c'était encore la colonisation qui se faisait. Et puis, il y avait un médecin du coin, dans son petit village où il habitait, il avait besoin d'un aide pour une opération qu'il allait faire dans une maison. Donc, lui avait 12 ans à peu près, puis il est allé aider le médecin lors de cette opération. Et puis, pendant que le médecin opérait, il tenait la maison super, super chaud. Et c'était un soir du mois de janvier, si je me souviens bien. Et après l'opération qui a aidé le médecin, il est reparti en pleine nuit dans le froid glacial. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à tousser et à tousser. Et avec les années, c'est devenu la tuberculose.
Oh, OK.
Donc là, il était rendu à 19 ans. Et puis, juste le fait de respirer, il y avait, tu sais, comme un bruit constamment qui était là. Il respirait plus bien, il avait mal à l'intérieur, il toussait, il toussait, il toussait. Et là, il s'est dit, mais là, Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Il sentait comme l'appel de Dieu, il sentait qu'il voulait se rapprocher de Dieu, il vendait, il mentait, il faisait toutes sortes de choses, sa vie allait pas bien. Et là, il s'est dit, je dois retourner voir mes parents. Et puis, ses parents avaient déménagé dans un autre état. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le train, mais dans le train, il dit qu'il était sûr qu'il allait mourir, en fait. Il était sûr que c'était la fin de sa vie parce qu'il est arrivé, en fait, en débarquant du train, sa maman était là, l'attendait à la gare. Et il est juste tombé dans les bras de sa maman et en fait, il était sur le point de mourir. Sa mère l'a ramené à la maison. Elle l'a soigné à fond pendant un bon 2 à 3 semaines. Il a recommencé à prendre des forces, en fait. Il a comme échappé un peu à la mort qu'il aurait sûrement eu s'il aurait resté seul. Et puis, il a pu commencer à ressortir parce qu'il était couché au lit, cloué au lit là, pendant des semaines. Il a pu commencer à ressortir des petits moments à l'extérieur puis revenir, ses forces lui manquaient. Mais la première sortie qu'il a voulu faire quand il commençait à reprendre la force, c'était d'aller à une réunion de réveil encore là dans une église méthodiste. Il a dit, moi, je vais aller à une réunion de réveil voir qu'est-ce que Dieu a à me dire. Et il va à cette réunion de réveil. Et pendant toute la réunion, malgré qu'il était pas encore du tout guéri, c'est juste qu'il allait mieux, il toussait pendant la réunion. Et il y avait une femme invitée, en fait. Puis ça, c'est cool parce que dans ces années-là, parle des années 1800, c'était une femme évangéliste qui prêchait en feu et prêchait la guérison. Et puis, elle prêchait sur le thème d'approfondir sa relation avec Dieu. Et puis, lui, ça lui parlait trop. Il était là. Mais pendant qu'elle prêchait, il toussait. Et là, elle a fait un appel à la fin. Elle le regardait pendant qu'elle prêchait. Et à la fin, elle a fait un appel pour tous ceux qui veulent approfondir leur relation avec Dieu. Et là, il s'est avancé, évidemment. Quand tout le monde se sont avancés, elle est allée vers lui directement. Elle a dit, et ça c'est ultra puissant, c'est un évangéliste qui s'appelait Matty Perry. Et elle lui dit, « Dieu n'a pas fini avec toi, tu es trop jeune pour mourir. » Elle a mis sa main sur lui, « Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-le de la tuberculose. » Et là, il est comme, « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, il est reparti chez lui. Le lendemain matin, il tousse plus. Les choses sont... Quelques jours après, un docteur est venu le voir. Il avait des poumons flambant neufs. Entièrement guéri, quelques jours après. Et tu dis, wow. Et là, il a dit, là, j'ai plus de temps à perdre, en fait. Donc, à 23 ans, il se marie avec sa femme Estella Had. Et les deux sont super zélés. C'est une femme qui a porté lui-même au Seigneur, mais qui était ultra zélée vraiment pour Dieu. Et puis, ils se sont mis d'accord, on sert Dieu tous les jours de notre vie. Vraiment, on va servir le Seigneur. Et là, ils commencent à servir Dieu de la façon qu'ils savaient. Et ils vont recevoir à leur maison le magazine, une revue qui s'appelait Les Feuilles de Guérison. Et c'était une revue qui était faite par John Alexander Dowie. Lui, si vous connaissez un peu l'histoire des années 1800, début 1900, c'était un des hommes qui a été ultra utilisé par Dieu. La sœur de John G. Lake est en train de mourir. Ça, c'est une autre personne sur qui j'ai fait un flashback, John G. Lake. Sa sœur, à lui, est après mourir et il avait envoyé un comment qu'on appelle ça?
Un fax?
Un télégramme pas dans les années 1800, Evelyne. Il a envoyé un télégramme, il a dit, ma sœur est mourante, il a dit, accroche-toi, je prie pour elle. Il a envoyé le truc. Et là, il s'est juste mis à genoux et John Alexander Dowie avait prié pour la sœur de John G. Lake. Elle avait été relevée surnaturellement, elle était mourante sur son lit. Tu vois, c'était le calibre d'homme que Dieu utilisait puissamment. Ils reçoivent leur magazine de guérison et il avait commencé une ville dans l'état de l'Illinois qui s'appelait Zion en anglais. Et lui, il avait la pensée d'avoir une ville parfaite, chrétienne et tout ça. Et eux, ils ont vu ça, FF et sa femme, ils ont dit, on va aller vivre là, ça semble merveilleux. Donc, ils déménagent là-bas. Et en arrivant à la ville, tout le monde était chrétien. Et puis, bon, il servait le Seigneur, mais il ne prêchait pas du tout encore. Et même qu'il avait peur que Dieu l'appelle à prêcher. Il ne voulait pas prêcher, ça ne l'intéressait pas. Et donc là, il est arrivé là, il a vu le groupe musical, à quel point c'était terrible. Et il a commencé à jouer de sa trompette. Et là, Alexander Dowie l'a vu, il a dit, « Wow, toi, je te mets directeur de mon groupe, c'est sûr. » Et là, il est devenu directeur musical de John Alexander Dowie. Et ils ont même fait, justement, ils ont rempli le Madison Square Garden à New York. C'était géant. Et il était dans la vingtaine, mais il était le directeur du groupe de John Alexander Dowie avant qu'il prêche. Et puis, il a commencé comme ça. Mais pendant qu'ils étaient dans la ville de Sion, ils ont entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. C'était nouveau. Parce qu'en 1900 et 1901, il y a eu un homme qui s'appelait Charles Parham, qui lui, justement, il a vraiment comme reçu cette révélation, il a commencé à prier pour les gens, et les gens commençaient à être baptisés du Saint-Esprit. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont entendu parler de cette expérience-là et ils ont dit, « Mais moi, je veux en savoir plus. » Et puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tous ces hommes-là qui ont impacté vraiment les États-Unis et d'autres parties du monde, ils se sont toutes, Dieu les a toutes connectées d'une façon surnaturelle les uns avec les autres. Quand tu lis les différentes histoires, tu vois, ah, ils ont été des amis pendant cette période-là. Mm. Comme lui, Bosworth a été l'ami de John G. Lake. Mm. Ils sont allés les deux ensemble, justement, à Azusa. On peut afficher la photo de Azusa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour faire une longue histoire courte? C'est que FF avait soif de pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. Et on voit au milieu, au centre, en arrière, c'est FF Bosworth. Mm. En avant, à droite, c'est John G. Lake.
Oui.
Et puis, à gauche, en avant, c'est William J. Seymour mm-hmm. qui a été le déclencheur de mm-hmm. Azusa Street.
Oui, dont Anne nous a parlé.
Donc, exactement aussi. Donc là, tu vois, FF et John G. Lake, les deux qui ont eu des ministères extraordinaires, à l'époque, n'étaient pas du tout connus, ne prêchaient pas encore. Et puis, ils sont allés à Azusa parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il en était. Et puis, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et du jour au lendemain, FF, sa vie a changé. Il a dit, ma vie a changé. J'aurais dû entendre parler de ça avant. Là, il y avait plus peur que Dieu l'appelle à prêcher, il avait peur que Dieu ne l'appelle pas à prêcher, en fait.
Ah ouais.
Et c'était comme ça, il a dit, là, je veux que Dieu m'appelle à prêcher. Et donc là, sa vie change vraiment radicalement. Et puis, en 1910, il ouvre la première église ADD dans l'État du Texas, à Dallas. Donc, la dénomination, les Assemblées de Dieu, Assemblies of God, est prêt de démarrer aux États-Unis. Et puis, il ouvre une église à Dallas et il a été pasteur là pendant 10 ans. De 1910 à peu près jusqu'à 1920. Et en 1912, il fait venir Maria Woodworth Eder. Mm. Et elle, c'est une autre femme. Tu vois, comme je dis, ils sont toutes connectées. Dieu a tout fait d'une façon, c'est extraordinaire. Et puis elle est venue pour faire une série de réunions, mais elle a resté 6 mois à fin de compte parce que le réveil avait éclaté. Mm. Et pendant 6 mois de temps, les âmes venaient au Seigneur et tout ça. Et FF s'est fait connaître au travers de ce réveil-là. Et puis, là, je dois accélérer, c'est plate, parce que, aïe, 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 il y a du stock à dire, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais là, ça, en 1919, FF sert avec sa femme dans leur église locale. Il y a un cœur pour l'évangélisation. Il y a 2 petites filles et 1 petit garçon de 4 ans. Et puis, subitement, son petit garçon tombe malade, meurt à l'âge de 4 ans. Et un an et demi après, sa femme travaillait tellement, elle commence à tousser. Pneumonie, tuberculose, meurt.
Oh.
Paf, paf, paf. 2 coups, comme back to back, comme ça, tac, tac. Le petit-fils, il meurt, sa femme aussi. Sa femme, ça faisait des années qu'il servait avec elle, puis elle était tellement zélée aussi. Donc là, lui, il prend un coup, mais malgré ça, sa stabilité reste. Il a dit, je ne vais pas laisser ma foi être affectée en Dieu. Je sais ce qu'il m'appelle à faire et je sais en qui je crois. Mm. Et moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est courir ma course. Donc, il continue. Il ne se laisse pas affecter par ça du tout. Et dans les années 1920, c'est là que son ministère a fleuri et a un impact extraordinaire. En fait, il s'est fait appeler par un pasteur de la ville de Lima, aux États-Unis. Et puis, il lui a dit, FF, je veux que tu viennes prêcher, mais je veux que tu prêches sur la guérison. Et lui, il a pris ça comme si c'était la volonté de Dieu. Il a dit, OK. Et là, mais avant de prêcher, lui, il voulait qu'il soit convaincu. Convaincu vraiment que Dieu voulait guérir.
Oui.
Il commence à étudier. C'était un homme comme ça. C'était pas un homme, excentrique. C'était pas quelqu'un qui était dans les émotions. Quand il prêchait, il prêchait. Bon, c'est pas mauvais en soi, mais il était pas comme ça. Mm-hmm. Il était calme. Et puis lui, quand il prêchait la guérison, quand les gens étaient guéris, il voulait que les gens se fassent vérifier par des médecins. Il voulait pas des trucs, il pense qu'il était guéri ici, et puis, alléluia, tu vois.
C'est authentique.
C'est du vrai. Mm-hmm. Et toute sa vie, ça a été comme ça. Et donc là, en 1920, il dit, Seigneur, je vais aller prêcher sur la guérison, mais je dois vraiment être convaincu que ça vient de toi. Et puis, j'ai une autre question, Seigneur, à te demander. Qu'est-ce qui se passe si je prie pour eux, puis il n'y en a pas un qui est guéri?
Oh.
Et là, le Seigneur lui répond tout de suite, est-ce que tu vas arrêter de prêcher s'il y a des perdus qui n'acceptent pas le message du salut quand tu prêches? Alors, il dit, ah, Seigneur, j'ai tout compris.
Mm.
Et là, il fonce. Il arrive à la réunion, il fait une déclaration très puissante, il dit, je suis convaincu que la guérison fait autant partie de l'évangile que le salut de ton âme.
Mm.
Demain soir, apportez vos malades, qu'ils soient sauvés ou pas, Dieu va les guérir.
Wow.
Et là, il était en dessous d'un chapiteau, il y avait plusieurs centaines de personnes. Mais les centaines de personnes apportent des centaines de personnes.
Mm-hmm.
Le soir d'après, des milliers de personnes.
Wow.
Il a fallu qu'il aille dans l'auditorium de la ville parce qu'il n'y avait pas assez de place. C'était des milliers de personnes qui étaient là. Il commence à prier. Et là, les miracles commencent à se manifester. Et puis encore là, comme je dis, il était calme. Il disait, allez vous faire vérifier. Et là, les séries de réunions s'enchaînaient. Et puis là, je vais entrer là, dans les guérisons parce que le temps file. Puis il y a eu une femme qui s'appelait Alice Baker. Elle, c'était une des femmes qui avait été, ça avait été connu son témoignage parce qu'elle avait couru partout. Elle avait le cancer du visage.
Oh.
Et en fait, sa lèvre supérieure était tellement rongée par le cancer qu'on voyait tous ses dents.
Oh,
Il n'y avait plus rien qui cachait son visage comme ça. Et donc là, les gens la connaissaient très, très bien. Elle avait un voile sur le visage et tout ça. Et elle a entendu parler que lui, il priait pour les malades. Et elle a dit, ben, j'ai rien à perdre, je vais aller voir. Et elle y va. Elle entend le message du salut. Et juste ça, ça l'a bouleversé sa vie. Elle dit, quelle joie de savoir que je peux être sauvée. Mmh. Et là, elle s'avance pour recevoir le salut. Elle reçoit la guérison, elle reçoit l'imposition des mains. Et puis elle a dit que c'était comme s'il y avait un masque de caoutchouc ou un couvercle de caoutchouc qui avait été comme mis sur son visage. C'est comme s'il y avait un nouveau moule qui se faisait un peu. Moi, c'est comme ça, je le sens. Et elle a dit, elle l'a senti tomber. Entièrement guéri surnaturellement, les lèvres revenues.
Alléluia.
Et là, tu vois, les gens étaient là, waouh! Mais là, ça, c'était un de tellement de trucs, hein. J'ai quelques trucs que j'ai guéri, que j'ai choisi. Il y a une jeune fille qui, en 1925, jouait dans sa cour d'école, c'était en hiver. Elle tombe par terre et elle se met à crier, au, au, au! Et elle avait mal à sa poitrine au niveau gauche. Et puis, les personnes, ils regardent, les docteurs regardent, il n'y a rien. Ben, c'est une douleur, ça va passer, tu vois. Et puis là, une petite bosse qui se forme. Et là, ça devient gros comme un orange. Mmh. Le cancer, la petite fille, elle avait le cancer. Et là, waouh, les docteurs, ils vont, les spécialistes, ils disent, non, il n'y a plus rien à faire, hein, c'est fini, c'est trop enraciné profondément. Ils donnent le diagnostic aux parents, c'est fini, ils ont été voir un peu partout. Et puis là, les mois passent, elle maigrit. Son docteur vient souper, vient manger, excusez, un dimanche après-midi avec les parents. Il voit la petite fille, puis lui, il la regarde avec évidemment de la compassion, puis il dit aux parents, mais il y a un homme que j'ai, puis c'est pas croyant, hein, c'est un docteur, tu sais, qui dit, puis les parents sont pas croyants non plus. Mm-hmm. Il dit, il y a un homme qui prie, là, ici en ville présentement, et les gens sont guéris. J'ai une de mes patientes qui avait un gros problème, elle a été guérie, je l'ai validée moi-même. Pourquoi vous ne l'apportez pas? Mm. Le soir même, ils s'en vont à Réunion. Hein. Il achète le livre que lui, F.F. Bosworth, avait écrit. On peut l'afficher. C'est le livre Christ the Healer. C'est le livre qui est devenu un classique, qui en impression encore aujourd'hui, qu'il a écrit en 1924. Wow. Les parents achètent le livre pendant toute la semaine. À la réunion, ils sont allés le soir même. Ils ne sont pas avancés ni pour le salut ni pour la guérison. Ils ont acheté le livre et ils ont lu le livre à haute voix dans la maison tout au long de la semaine. Et là, ils commençaient à être vraiment convaincus que c'était la volonté de Dieu de guérir. Parce que le livre affirme cela. Mm-hmm. Et puis là, il retourne la fin de semaine d'après. Elle s'avance, il prie pour elle, rien ne se passe. Puis en fait, c'est qu'elle n'avait pas juste la bosse, elle était enflée jusque dans le cou, ici, tout le côté de l'épaule, et avait une grosse plaie ouverte qu'elle devait mettre des trucs dessus. Mm-hmm. Une petite fille. Et là, la petite fille, le soir, elle arrive à la maison, sa maman dit, viens ici, je vais t'appliquer ton médicament un peu dessus. Elle dit, mais non, je suis guérie. Mm. Et là, la maman... Elle a stressé un peu. Elle dit, mais non, t'es pas guérie. Et là, c'est... la petite fille, elle dit, non, Jésus m'a guéri. Elle va se coucher. Et là, la mère, elle a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, la petite fille se relève. Toute l'enflure avait disparu. Oh. Wow. Et là, la maman, elle en revenait pas, hein. Elle dit, mais c'est quoi l'affaire? Quelques jours après, c'était gros comme un orange, c'était rendu gros comme une petite noix. Mm. Tout petit. Quelques semaines après, entièrement guéri. Mmh. Et les docteurs en revenaient pas. Il dit, tu vois, c'était le style de guérison qui se passait, mais tout validé par les médecins comme ça. C'était tellement extraordinaire. Et il y a un autre homme qui, lui, pendant la Première Guerre mondiale, avait été atteint par un gaz chimique pendant qu'il était sur une mission spéciale. Son compatriote était mort dans les jours qui ont suivi et lui a réussi à vivre. C'est un Américain. Il s'est fait apporter dans un hôpital français à l'époque. Et puis, il y avait eu 14 opérations. Il y en avait eu, je crois que c'était 6 ou 8 sur sa gorge ou 6 ou 8 sur les poumons. Mm-hmm. Puis il était condamné, c'était fini, il n'arrivait plus à parler, il avait perdu la voix, il ne pouvait plus parler du tout. Les meilleurs médecins aux États-Unis, par la suite, il avait fait le tour des hôpitaux, rien à faire, il était déclaré infirme à vie. Et puis il entend parler des réunions, lui aussi, il y va, et puis il reçoit la prière. Et là, lui qui a prié pour lui, ou quelqu'un à l'entour, il a dit praise the Lord! Loué soit le Seigneur! Et là, le monsieur, il dit, ben, il me connaît parce que c'est un personnage qui était connu, il avait fait les journaux, son cas était connu et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il se dit à me dire à moi de louer le Seigneur? Je suis pas capable. Et là, il a senti, au moment où il a voulu ouvrir la bouche, il a senti une décharge dans son corps, de son estomac jusqu'à sa gorge. Il sentait ça. Il a senti ça faisait mal! Et là, quand ça a arrêté, il a dit « Praise the Lord! » Il s'est mis à crier entièrement guéri instantanément. Tu vois, c'était des trucs comme ça. Et là, ça l'avait fait les journaux. Les journaux pouvaient rien dire parce que c'était authentique. Mm-hmm. Les gens connus des trucs extraordinairement... Mm-hmm. C'était fini. et le Seigneur guérissait, et c'était confirmé par les médecins. Et tu vois, c'était ce style d'affaires-là qui se passait continuellement tout au long de sa vie, qui a duré des années 20 jusqu'à dans les années 30. C'était ultra puissant. Et puis, par la suite, il a été un mentor pour William Branham à la fin des années 40 jusque dans les années 1952. Il a été un mentor avec Branham. Il était tellement humble. Il avait été écouter Branham à Miami. Et puis, quand il était rendu à 70, 71 ans, il est allé écouter Branham, lui qui était connu, un évangéliste extraordinaire. Et il a entendu Branham, il est allé le voir, il a dit « J'aimerais ça travailler avec toi, je pourrais prêcher le jour, puis toi le soir. » Tu vois, il était simple, humble. Et puis Branham, il s'était dit à l'époque « Wow, je veux pas passer à côté de ma chance d'avoir un homme comme ça, de mentorat et tout ça. » Donc, il a travaillé avec Branham comme ça. Et puis, à la fin de sa vie, il sentait que sa mission était terminée, en fait. Donc là, ici, on voit une photo de lui avec Branham, justement, dans les années fin 40. Et il est allé en Afrique du Sud avec lui aussi. Ils ont vécu des choses extraordinaires que je pourrais vous dire, mais le temps me manque. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il sentait que son temps était terminé. Il avait fait son dernier voyage missionnaire au Japon. Et puis, en revenant du Japon, il a dit au Seigneur, « Seigneur, je crois que mon temps est fini. Je sens que ma course est achevée. J'ai fait ce que j'avais à faire. » Il était sérieux et sincère. Il s'était remarié pendant plus de 30 ans. Il avait eu la même femme après aussi. Vraiment stable à tous les niveaux. Et puis là, il appelle ses enfants. Puis il a dit à ses enfants, « Mes enfants, moi, c'est le temps que je parte. » Donc, il appelle tous ses enfants qu'il avait eu avec la première femme et sa deuxième aussi. Ils viennent le voir. Puis, il dit, « Là, je vais rentrer à la maison. » Fait que je m'en vais au lit. Puis le Seigneur va venir me chercher. Donc, il s'en va dans son lit. Et zéro malade. Okay. Aucune maladie. Quoi que ce soit. Il avait prié une fois au Seigneur. Seigneur, préserve-moi de toute maladie. Je veux te servir toute ma vie, s'il te plaît. Toute sa vie, il n'a pas été malade. Et là, il est en pleine santé. 81 ans. Il s'en va se coucher. Et puis là, un jour, deux jours passent. Un autre, on aurait dit, t'es fou. C'est quoi tu fais? Trois jours passent. Une semaine, deux semaines passent. Lui était là. Il attendait le Seigneur. Et puis, il a dit à un de ses fils, quelques jours avant que ce qui s'est passé arrive, il dit, moi, j'ai servi le Seigneur toute ma vie et je sais que d'un moment à un autre, je vais voir le Seigneur Jésus rentrer et venir me chercher pour m'apporter dans sa gloire. Et il était comme ça, son attitude. C'était puissant. Et là, un jour, il était là avec ses enfants et ses enfants, ils se mettent à chanter et puis ils riaient, ils parlaient autour du lit. Il était tout là, il était pas malade, il avait rien. Il était juste dans son lit, il attendait le Seigneur. Et puis là, ses enfants, ils parlaient. Puis là, ils ont dit, et là, ils nous voyaient plus. Ils voyaient le monde invisible. Il a commencé à saluer des gens. « Hey, comment ça va? » Et là, il saluait des gens. Et il serrait les gens. Et il voyait le monde invisible pendant plusieurs heures. Il était vivant sur Terre, mais son esprit était déjà plus là. Il voyait le monde invisible. Et là, ses enfants ne revenaient pas. Ils regardaient. Et puis, tout à coup, il regardait les gens. Comme je dis, pendant quasiment 8 heures, je crois que ça durait. Ses enfants étaient juste là. Et là, il est parti. Il est rentré à la maison comme ça. Et tu dis, mais quel modèle de stabilité, de fiabilité, de y coller au Seigneur était une foi extraordinaire. Tu t'imagines, tu dis, je vais me coucher, mais là, je me relève plus, en fait, parce que le Seigneur vient me chercher. Mm-hmm. Tu dis, mais quelle foi qu'il y avait en cet homme. C'était extraordinaire et il a vraiment apporté le message que le salut et la guérison ont été autant pourvus l'un pour l'autre au travers de la croix. Amen. Il a été le mentor de T.L. Osborne. Il a été quelqu'un qui a impacté des générations jusqu'à aujourd'hui. Je lis son livre et ça me bouleverse encore. Mm-hmm. Je le lis puis je me dis, mais Seigneur, c'est tellement bon. Et c'est des trucs que tu dis que tu connais, mais quand tu lis, c'est révélation. C'est wow! Et tu dis, quel homme stable, quel homme fidèle à son appel, pas eu d'éclat trop. Vraiment, il a été un mentor pour tous ces autres hommes par la suite. Même Oral Roberts était un fils de lui aussi. Et puis, il a jamais voulu rien d'extraordinaire. Il a vécu sa vie pour servir le Seigneur. Et puis, ça a été un exemple tellement puissant pour nous. F.F. Bosworth, Fred Francis Bosworth, c'est vraiment quelque chose, en tout cas. C'est son histoire. Wow. Et là, j'ai débordé sur mon temps.
Un tout petit peu.
Mais là, alléluia, c'est la fin.
Merci, Frank. Amen. Quel exemple. Ouais. Vraiment, gloire à Dieu pour la vie de cet homme. Et merci, Frank, pour tout ce travail et tout ce que tu nous as apporté. On est bénis sur ce plateau. Amen. Et je crois que vous êtes bénis, vous aussi, à la maison et que cette histoire vous a beaucoup touché. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Comment briller davantage ?» Eh oui, nous voulons briller dans ce monde de ténèbres. Nous sommes appelés à être des lumières. Et nous allons donc nous retrouver demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis. Soyez stables dans votre vie. Allez, à demain. Bye bye.
Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison ?
Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones.
Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.